Je ne sais pas si vous avez le temps et la liberté de le faire. Moi, je le trouve difficilement, mais je m'efforce quand même. C'est de m'informer un petit peu. Et peut-être, comme pour moi, de temps en temps, en lisant soit le journal ou en écoutant la radio, si c'est ce que vous préférez, voire même, pourquoi pas, en regardant les informations à la télé. Un peu comme cette semaine, il nous arrive d'être estomaqué. C'est un vieux mot, ça. Écœuré, peut-être. Voire de ressentir une grande colère face notamment à des injustices sociales qui demeurent, qui continuent d'être là. Très souvent, je dois vous l'avouer, cela me met moi profondément en colère. Je déteste l'injustice. Ça ne veut pas dire que pour autant je me bouge, mais je me mets en colère. Et pour autant, et surtout, je me sens impuissant. Impuissant notamment car nos lois, ne serait-ce qu'en France, restent imparfaites. Elles permettent encore que subsistent différentes formes d'injustice sociale, au cœur même de ce beau pays qui se veut le pays de la liberté, des droits de l'homme, etc. Bon, c'est une chose, mais ça n'est pas l'absolu. Prenez par exemple. Alors, je ne connais pas très bien le sujet, mais on en entend tous parler, parce que c'est quand même mondialement connu. Prenez par exemple la Coupe du monde de football, ou le mondial de football. Je ne sais pas quelle est l'expression, pour les footeux, n'hésitez pas à me corriger. Bien à l'avance, le choix du pays qui va accueillir la prochaine Coupe du monde de football est déterminé pour leur laisser le temps de se préparer, de créer les infrastructures et tout ce qui s'ensuit. Et pour cela, des critères sont pris en compte pour aboutir à ce choix. Il y en a plusieurs en lice, tous montrent ce qu'ils sont prêts à faire, l'argent qu'ils sont prêts à débourser, ce qu'ils vont créer pour cela. Puis bon, il y en a toujours un qui est choisi pour les années à venir. Et à chaque fois, quand l'événement arrive, que les choses sont prêtes, alors il y en aura un bientôt, puis il y en aura encore dans 4 ans, et puis dans 8 ans aussi, etc. Les journalistes se félicitent et aiment à souligner à quel point le pays qui reçoit ce grand événement mondial a fait tant d'efforts, a créé telle architecture, a fait un des stades les plus modernes qui soit. Bref, on aime bien féliciter, montrer à quel point le pays a mis les petits plats dans les grands, si on peut dire ça. Mais avouons-le, nous ne sommes pas toujours aussi très regardants quant à la manière dont tout cela peut-être se prépare. Alors, petite question, là, il y en a peut-être quelques-uns, moi je l'ai découvert cette semaine, hein. Je ne suis pas tellement au fait de ça, mais savez-vous où se déroulera le mondial, non pas de cette année, ça c'est trop facile, mais en 2022? Au Qatar, je savais qu'il y en a qui le sauraient, je le savais, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Effectivement, c'est bien au Qatar. Et savez-vous qu'ils sont prêts à investir pas loin de 200 milliards de dollars, dont à peu près 140 rien que pour les infrastructures de transport. Sacré investissement, juste pour un petit mois avec des gens qui vont courir derrière une balle. Bon, c'est important, pourquoi pas? Là, c'est la personne qui n'aime pas trop le foot qui parle. Faut pas l'entendre. Mais pour arriver à cela, et soyons plus sérieux, et malgré en plus la somme considérable déployée pour ce mondial qui aura lieu bien plus tard en 2022, toutes les infrastructures et tout cela qui vont être faits pour accueillir ce grand événement sportif sera bâti grâce à une forme moderne d'esclavage, induit par certaines grandes entreprises, dont notamment quelques grands groupes français, dont on n'a pas besoin de donner les noms, qui demeureront, ou qui demeurent, puisque c'est déjà l'actualité, à l'abri grâce aux lois qui régissent la société qatarie, puisque tout se fait là-bas, bien évidemment. Ainsi, aujourd'hui, alors que déjà au Brésil les choses sont en train de s'achever, pour le Qatar, ça commence déjà. Et des milliers d'ouvriers là-bas, venant de différentes nations, travaillent actuellement souvent privés de leurs propres papiers, travaillant dans des conditions qui montrent à quel point ils sont plus dans une servitude qu'un libre travail, comme on l'imaginerait. Et cela n'est pas sans même rappeler un peu la manière dont étaient traités les esclaves dans les champs de coton, que ce soit aux USA ou aux Antilles. Et je pense pour certains ici, ça peut encore résonner un petit peu. Et pourtant, c'était il y a déjà, dans cette autre partie du monde, il y a un peu plus d'un siècle. Aussi, ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte juridique. un texte juridique qui n'est pas exempt de ces problèmes-là. Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée, quelqu'un a un code civil sur lui. Non, hein. Personne. Vous en faites pas, c'est pas tellement ça que je vous demandais de lire. Je trouve que c'est rasant. Alors... Et puis, on ne le connaît pas. À part peut-être une ou deux personnes qui maîtrisent un peu ces choses-là, elles sauraient nous y aider. Je vais vous proposer tout simplement d'ouvrir votre Bible en Exode 21. Exode 21. Et nous allons lire les 11 premiers versets. Donc, Exode 21, c'est le deuxième livre dans votre Bible, donc c'est plutôt vers le début. Chapitre 21, à partir du premier verset, donc du tout début du chapitre, jusqu'au verset 11. Comme à mon habitude, je vais prendre dans la traduction au Semeur, donc quelques petites variations, mais ce que nous allons lire est strictement la même chose. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre sans avoir rien à payer. S'il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira libre. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se la réservait, il la fera racheter. Mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait là la trahir. S'il l'a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles. Si après l'avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces trois choses, elle pourra partir libre sans paiement. Nous arrêtons là notre lecture, un texte pas courant. Pas en tout cas très courant pour nous, puisque c'est une réalité qui nous dépasse, ou qui nous semble tellement lointaine. Notre texte ici se situe donc peu après le don de l'Alliance au peuple d'Israël dans le Sinaï. Autrement dit, cette loi sur la libération de l'esclave d'origine hébraïque, là on reste dans un cadre un peu plus serré, est la première mention d'une loi civile au sein de l'Alliance. N'est-ce pas un peu étrange pour une société comme le peuple d'Israël, même antique, de commencer ce qui s'apparente un peu à un code civil comme le nôtre, en s'intéressant et en mentionnant le plus fragile, le plus petit, le plus faible, celui qui est tout en bas, au dernier rang de la société, c'est-à-dire le pauvre devenu esclave. Notez qu'il y a déjà là un signe fort de l'originalité divine. Quand Dieu aide l'homme et lui propose un cadre de vie avec des règles pour l'amener à réaliser une société plus juste que ses voisins, il commence par cela. Il s'intéresse aux plus fragiles. Revenons un petit peu à nous. Imaginez un peu. Si en bon humain que nous sommes, en bon humain, je n'ai pas dit en mauvais humain, en bon humain, il nous était confié aujourd'hui de rédiger de bout en bout le code civil. Je suis à peu près persuadé qu'à peu près chacun d'entre nous s'empresserait de dire quels seraient les droits et les obligations de nos autorités, et plus encore leurs devoirs envers nous qui ne sommes que de simples citoyens. En tout cas, ce serait mon réflexe, je vous l'avoue. Mais Dieu, en donnant cette loi à son peuple, montre son intérêt, son souci de protéger les plus faibles, de définir même la protection dont ils pourront jouir quand ce peuple s'établira plus tard en terre promise. Parce que là, ils sont encore dans le désert. Ils n'ont pas encore vraiment de propriété. Notez encore une chose. La loi du jubilé, qui intervient un peu plus tard et que l'on voit dans le livre du Lévitique, vient clore un petit peu les lois civiles de cette future nation. Ainsi, le Dieu d'Israël commence par des directives à propos des esclaves et finit sur le jubilé, qui lui-même, au sein même de cette loi particulière du jubilé, se conclut sur à nouveau les modalités de libération de l'esclave. Et de même conclure par cette phrase, c'est de moi que les Israélites sont des esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Voyez comment Dieu conclut en plus tout cela. Ainsi, tout au long du Pentateuque, ces cinq premiers livres qui ouvrent la Bible, que l'on appelle aussi parfois Torah, ce qui signifie, et là tu me corriges si je dis une erreur, mais j'espère ne pas faire la chose, qui signifie instruction ou loi. Au sein du Pentateuque, l'esclave, autrement dit le pauvre, devenu esclave, bénéficie d'une place importante. Mais bien que ce Pentateuque, cette Torah, ces cinq premiers livres, en tant que manifestation de la volonté divine pour son peuple, accordent un intérêt manifeste, exceptionnel en faveur des pauvres, il n'en demeure pas moins que la condition des pauvres, des plus faibles, de ces démunis, reste très difficile. Ça n'enlève rien. La loi, notamment dans l'extrait qui stimule notre méditation ce matin, le laisse percevoir très clairement, au point même peut-être qu'elle a fait réagir certains d'entre nous. Je ne sais pas si à la lecture vous avez réagi, mais moi ça me dérange parfois un petit peu quand je lis ça. On le sait bien, cette loi ne peut tout résoudre. Elle n'est en rien la solution ultime à toutes les problématiques humaines d'autrefois. Et la loi donnée à Moïse n'abolit en rien l'esclavage. Elle le permet. Certes, me direz-vous, elle permet la libération de celui qui s'était fait esclave au bout de 6 ans de service. Il travaille 6 ans et dès la 7e année, il retrouve sa liberté. Mais elle le permet pour l'esclave d'origine hébraïque, là où pour l'esclave d'origine étrangère, le texte fait un peu moins précis. Et il y a presque là déjà, d'une certaine manière, une forme de discrimination qui subsiste entre les plus fragiles au cœur d'Israël. Mais passons un peu ce point-là. Mais à la lecture de notre passage, choisi pour notre temps, là, n'avez-vous pas été peut-être même déçu, ou inquiété, choqué, voire même révolté ? Écoutez ce verset à nouveau. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira libre. C'était au verset 4. Un esclave qui, durant son temps de servitude, auprès d'un maître, avait épousé une femme et même eu des enfants avec elle, avait le choix entre partir seul et abandonner sa famille, ou alors devenir esclave de son maître jusqu'à la fin de ses jours. Voilà l'alternative. La loi sur l'esclavage donnée par l'Éternel lui-même à Moïse pour son peuple, quelque part, sépare ce que Dieu a uni. C'est un peu étrange. Et Christ lui-même, dans d'autres circonstances, aura quelque part ces mêmes mots. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et là, ici, la loi donnée à Moïse le permet, ou l'autorise, quelque part, dans un cadre bien précis, ou donne la possibilité. Comment alors se fait-il que ce que Dieu a uni soit séparé par la loi qu'il donne à son peuple au Sinaï ? Étrange, non ? Permettez-moi encore une question un peu idiote. Dieu, là, n'est-il pas en train de se marcher sur les pieds ? Elle est vraiment idiote comme question, hein ? Mais doit-on comprendre qu'il y a opposition entre les dispositions humaines, le don de cette loi qui encadre notamment l'esclavage, et d'autre part la volonté divine, quant à notamment la réalité créationnelle du mariage. Mais ne nous arrêtons pas là, car peut-être avez-vous relevé encore d'autres difficultés qui ont pu vous interpeller dans la lecture que nous avons eue. Je regarde un peu plus loin et au verset 7, nous avons lu ceci. Lorsqu'un homme vend sa fille comme esclave, puis bon, je passe la suite, mais voilà ce qui est dit et ça commence comme ça. Or, bien entendu, nous ne sommes pas des Israélites, vivant il y a quelques millénaires, mais dans notre société, cela nous semble ignoble. Et plus que cela même. Mais n'allons pas trop vite. Certes, la loi donnée à Moïse, que nous avons lue là, n'interdit pas à un père de vendre sa propre fille comme servante, voire esclave. On ne va pas trop jouer sur les mots là. Pour autant, est-ce qu'un père est capable de faire cela sans remords, sans difficulté? Je ne le crois pas. Mais le texte, ici quand même, nous présente ce fait comme quelque part une situation possible, voire même courante. Une pratique qui était répandue en Israël à l'image de ce qui se pratiquait déjà chez les peuples voisins, et peut-être bien plus largement, et dont l'influence demeurait importante sur Israël. Et n'allons pas croire que nous-mêmes nous sommes à l'abri de l'influence de ce qui se fait ailleurs, que l'on juge mauvais. Regardez tout simplement à nous, où on est très prompt à imiter la manière, notamment des USA, et pas que, mais notamment que l'on essaye de voir toujours comme un modèle. Et on va l'imiter à la fois dans les bonnes choses, et pourquoi pas, mais aussi dans les mauvaises. Mais revenons à ce texte, à cette loi, à ces circonstances-là. Si vendre un enfant comme esclave est chose possible, et ici il s'agit d'une fille, de sa fille, est chose possible, voire même certainement courante au temps d'Israël, la loi ici apporte, par ses dispositions, une protection à la fille vendue en esclave, en l'empêchant de devenir un simple objet de désir, vendu, revendu, d'un maître à l'autre. Regardez comment la loi est dite, elle est là pour éviter cela, autant que se peut. N'ayons pas peur des mots, la loi est là pour empêcher, dans le cas où ça rend difficile et que le père n'a plus que cette solution-là, c'est d'empêcher que sa fille devienne une prostituée, tout simplement. Bien au contraire, la loi cherche à lui assurer les avantages et même la protection d'une épouse. Autrement dit, la loi est rédigée en sa faveur, sans pour autant en interdire la vente en tant que servante ou esclave. Et dans cette autre situation dépeinte par la loi, la tension demeure grande entre la loi donnée par Dieu et sa volonté pour l'homme. La loi, qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui, laisse en demeure des problématiques, des situations douloureuses, en quasi-contradiction avec la volonté divine. Et c'est ce que déclarera, à juste titre, le Fils, Jésus lui-même, en parlant de la dureté du cœur de l'homme, quand quelques-uns de ses contemporains vont venir le trouver pour le questionner à propos de la lettre de divorce, et va leur faire comprendre pourquoi la loi a été donnée. Dieu, en donnant la loi, tient compte de la grande dureté de notre cœur et se permet d'en limiter les conséquences en protégeant avant tout, et c'est pour ça qu'il commence par cela, les plus faibles, de cette dureté, de cette méchanceté qui est tapie au fond de chacun de nous. Ainsi, ces premiers livres, cette Torah, ce Pentateuque, dans son dispositif législatif, n'abolit pas du tout l'esclavage, avec les problèmes que cela entraîne. Elle ne le fait pas car elle utilise l'esclavage comme une voie de secours. Oui, Dieu ici transforme quelque part l'esclavage comme une voie de secours pour les plus pauvres, en leur offrant un moyen, une situation de subsistance. d'une certaine manière, l'esclavage est comme réquisitionné au profit de la lutte contre une grande pauvreté qui arrivera tôt ou tard en Israël. Ainsi, là où la loi donnée par Dieu à Moïse semblait parfois en inadéquation avec sa propre volonté, il nous faut distinguer la loi en elle-même, celle qui est donnée, du sens profond et véritable de la loi. Plus simplement, et pour le dire autrement, il nous faut savoir discerner l'intention du législateur, qui est Dieu. Oui, dans cette loi qu'il donne, il nous faut comprendre, voire trouver l'intention du législateur qui compose avec la dureté du cœur humain. Oui, Dieu a tenu compte de l'environnement social d'Israël, de cet Israël antique, pour faire don d'une loi contenant des dispositifs qui, à l'époque, étaient audacieux, parfois même révolutionnaires. Et Dieu, en faisant don de cette loi, agit pour les plus pauvres, les plus faibles, et il ne fait pas abstraction pour autant de la dure réalité humaine qui vit dans un monde déchu, ce qui est toujours le cas pour nous. Autrement dit, Dieu fait preuve de réalisme. Mais il ose prendre des directions nouvelles qui soulignent son intention, qui nous aident aujourd'hui à définir sans cesse ce que l'on peut appeler une éthique chrétienne. C'est l'intention de Dieu qui nous permet de voir quelle doit être notre éthique. Oui, notre éthique ne peut que s'appuyer sur cette volonté divine perceptible dans le sens, dans l'esprit qu'il donne à la loi, et non dans la loi en elle-même. Et regardez à Jésus. C'est ce qu'il a fait constamment. Et notamment quand il a enseigné sur cette montagne, à travers ce sermon sur la montagne, ce texte des chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, que nous connaissons certainement. Et il prenait à témoin ses contemporains en citant la loi de cette manière. Il vous a été dit que, et pourquoi pas tu ne tueras pas. Et là se placer au même niveau, voire peut-être au-dessus. Et moi je vous dis que. Notre éthique, je vais reprendre la même expression, mais notre éthique chrétienne vient chercher son inspiration, son souffle nouveau dans la volonté du royaume, dans l'intention divine que le Père ou le Fils nous délivre par la parole, par les Écritures. Et que l'Esprit Saint nous aide à discerner. Là, c'est Dieu, à travers les trois personnes, qui nous aide à trouver cela. Toujours. En tant qu'homme, ou en tant que femme, nous serons toujours à même de fixer des limites plus ou moins atteignables à la loi. La loi est faite d'une manière à ce qu'elle soit possible, pas insurmontable. Elle n'est pas idéale. Mais une véritable éthique inspirée par l'Esprit et par la parole du Dieu Très-Haut ne se contente pas aux délimitations que nous pouvons donner dans notre compréhension de nos règles. Surtout quand il s'agit de veiller sur notre prochain, de venir au secours du plus petit que moi. Nos dispositifs légaux, législatifs, nos structures, même nos associations, en gros, ne valent strictement rien sans une conscience éthique, sans une conscience de la volonté du Dieu Très-Haut. Nous sommes appelés à être ses disciples, à vivre cette réalité du royaume. Oui, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons créer, ici je ne vais pas rester sur des structures législatives, ça ne nous appartient que très peu, mais à travers des associations que nous pouvons créer, elles ne valent rien sans une conscience éthique toujours plus affûté, qui nous met en marche, qui nous pousse à la mise en œuvre, à aller au-delà, à corriger même les limites et les effets pervers engendrés par des lois qui ne sont qu'une adaptation à ce monde déchu, qu'une adaptation à nos cœurs mauvais. Ainsi, notre vie chrétienne, dans notre vie communautaire, il nous est possible de définir des structures, de créer, pourquoi pas, des associations pour apporter des réponses dignes de l'Évangile face à des situations différentes, face, par exemple, à la misère qui nous environne. Mais sans une remise en cause qui discerne, cherche la volonté du Dieu Très-Haut, sans cette éthique, si vous préférez, que nous essayons de trouver, de discerner, nous n'allons nulle part. On le fera en vain. Aussi, il nous faut nourrir cette éthique-là que nous devons voir et cultiver. Mais plus encore que cela, il nous faut entrer d'une manière constamment renouvelée dans cette relation d'intimité avec le maître. Et là, je préfère parler de maître, c'est plus approprié. De revenir à lui sans cesse pour se laisser toucher et mieux connaître son intention. Car nous sommes plus promptes à chercher une loi avec un cadre bien délimité. C'est tellement plus facile à appliquer dans nos vies et d'en oublier vraiment l'intention de Dieu qui nous est dite par cette loi-là. Et regardez à quel point Christ a critiqué ses contemporains. Et je pense qu'on peut y s'y retrouver aussi quelque part, certainement. Il nous faut apprendre à cheminer dans cette réalité audacieuse du royaume de Dieu qui est déjà présent. Il est déjà présent, ce royaume de Dieu, parce que Dieu nous a fait don de l'Esprit et que nous devons mettre en valeur cette réalité-là, cette réalité nouvelle, cette réalité meilleure, bien qu'imparfaite. Car le royaume de Dieu est déjà présent, mais il vient aussi. Et c'est là certainement l'un des plus beaux services, l'un des plus beaux engagements que nous pouvons rendre à nos contemporains, à notre société, en commençant par les plus faibles. Mais plus encore, l'une des plus belles manières de rendre gloire à Dieu, de rendre gloire à notre Créateur, avec, sans oublier bien sûr, l'annonce de la parole. Et là où l'Église, depuis très longtemps, a créé, imaginé des réponses à la détresse de notre monde, en ouvrant des dispensaires, des hôpitaux, des orphelinats, la plupart de toutes ces structures qui aujourd'hui font partie de l'État, en tout cas en France, ont été voulues par nos ancêtres, nos frères en la foi qui étaient là bien avant nous. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'apporter des nouvelles réponses avec les moyens dont Dieu nous fait grâce. Ça ne veut pas dire que demain on va créer un hôpital avec 300 lits, on n'en est pas là. Mais plus encore, Dieu nous invite à nous nourrir de sa parole, à regarder à Jésus pour discerner toute l'intention du Père, qu'il laissait déjà transparaître dans le don de la loi à son peuple, afin que dans notre vie, nous reflétions non pas la loi, mais la justice du royaume. Et pour moi, il y a une très grande nuance. Celle que le Christ n'a eu de cesse d'enseigner sans relâche à ses disciples. Et les évangiles sont précieux pour cela. Ils nous le disent cela. En tant que frère du Christ, ou en tant que sœur, et là c'est pour vous mesdames, nous n'avons pas pour but premier de vivre selon des règles bien définies, avec des « fais pas ci, fais pas ça », etc., etc. On est très fort pour ça. Mais à nous définir selon je réfléchis, mais peut-être plus simplement même à chercher l'intention du Dieu Très-Haut, Une intention qui ne se trouve pas dans une règle avec toutes les limites que cela comporte, mais qui trouve toute son expression dans la liberté du Christ, dans cette liberté qu'il a eue auprès de ses contemporains. Aussi, si peut-être, en tant qu'enfant de Dieu, dans un avenir, en tant que communauté surtout, nous souhaitons apporter des réponses, nous souhaitons aussi dire l'évangile d'une manière pratique, en nous tournant peut-être vers certains, pourquoi pas les plus pauvres d'entre nous, ici même, autour d'Anthony. Il sera bien sûr utile de créer quelque chose, de le définir, d'en donner un cadre, mais de ne faire que cela, cela ne sera pas suffisant. Cela sera même vain. Nous avons grand besoin de redécouvrir sans cesse qui était Christ, qui il est aujourd'hui encore pour nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous pour cette société? Quel doit être mon témoignage véritable? Je vous invite juste à un instant de silence. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Toi qui accompagnais ce peuple dans le désert, qui lui a donné tout un code de règles pour l'aider à se connaître, à se savoir pécheur, mais aussi quelque part à être témoin de qui tu étais, toi l'unique Dieu, qu'il puisse vivre autrement et dépasser les simples fonctionnements de leurs contemporains. Seigneur, donne-nous aussi de nous renouveler, de venir sans cesse à toi, de te redécouvrir par la personne de ton Fils, qui nous a déjà tout dit. Que nous puissions trouver cette liberté, cette justice du royaume que tu nous enseignes pour la vivre concrètement, au jour le jour, et surtout de ne pas nous arrêter à de simples préceptes, mais d'oser aller plus loin pour que tu sois glorifié, que notre vie soit un réel témoignage de cette grâce que tu offres à quiconque veut l'entendre et la recevoir. Amen.